Il y a au début de l'évangile de Luc un passage assez long qu'on appelle l'évangile de l'enfance, qui parle de la conception de Jean-Baptiste avec Élisabeth, Zacharie, puis celle de Jésus, sa naissance avec les bergers qui viennent l'adorer suite à la révélation des anges qui viennent lui jouer de la trompette dans les oreilles. Et j'avoue que je n'ai jamais eu une grande sympathie pour ces passages des évangiles de l'enfance de Luc. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont relativement plus tardifs que le reste de l'évangile, et j'ai toujours été gêné par cet aspect de contes et légendes orientales dont l'historicité est évidemment douteuse. Quant au contenu théologique, il ne m'a jamais non plus semblé très relevé. Effectivement, étant plutôt en lien avec une sorte de théologie de l'Ancien Testament, où l'on voit un Dieu tout-puissant qui s'exprime de différentes manières, rendant enceinte l'une ou l'autre dans des situations tout aussi exceptionnelles. Dans ce cadre-là, il y a ce que l'on appelle le Benedictus, et qui n'est autre que le cantique de Zacharie, c'est-à-dire ce psaume qu'invente et que chante Zacharie lors de la naissance de son fils Jean. De la même manière que le reste, je n'ai jamais prêté une grande considération à ce cantique de Zacharie, trouvant qu'il ne m'apportait pas grand-chose dans ma propre foi. Et puis voilà que, voulant le travailler, avec notre groupe d'études bibliques en hébreu, j'ai voulu travailler une version hébraïque de ce cantique, puisque c'était un texte de saison, dirais-je, et donc je l'ai fait sans a priori. Et dès le début de ce texte, j'ai été saisi par, je ne voudrais pas dire une révélation, mais j'ai été saisi par quelque chose d'extraordinaire que disait ce texte, qui était d'une des plus grandes et belles choses qui pouvaient être dites dans notre Bible. En effet, le premier verset, si on le lit sans y faire attention, ne dit pas grand-chose, mais si on regarde plus en détail, il y a déjà tout un programme. Le début de ce cantique de Zacharie, c'est « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Je l'ai lu des milliers de fois, bien sûr. Et puis, en le regardant de plus près, j'ai découvert la chose suivante. C'est que, évidemment, ce nom de l'Éternel n'est pas n'importe quel nom de Dieu. Vous savez qu'il recouvre un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, que l'on appelle le tétragramme, et qui s'écrit en hébreu de quatre lettres, de quatre consonnes, IHWH, dont on ne sait pas comment il faut le prononcer. Alors certains le prononcent Yahvé, d'autres Yéhovah. Les Juifs évitent de le prononcer puisqu'ils n'ont pas le droit de le prononcer. Ils disent simplement le Seigneur ou l'Éternel, le Seigneur. Et les protestants en général disent l'Éternel, ce en quoi ils ont été suivis d'ailleurs par les Juifs dans leur traduction française. Et donc quand Zacharie dit que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire notre Dieu à nous, le Dieu du peuple, le Dieu dans lequel nous croyons, il dit que ce Dieu d'Israël, c'est Yahvé, le tétragramme, l'Éternel. Eh bien, c'est une affirmation théologique très forte, et c'est une confession de foi qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Parce qu'en effet, qui est ce Dieu Yahvé? Eh bien, ce Dieu Yahvé, il est révélé dans un texte, qui est le chapitre 3 du livre de l'Exode, où en effet, Dieu donne son propre nom, et c'est, dit-on, à partir de là qu'on l'appellera Yahvé, c'est-à-dire IHWH, de ce tétragramme. En effet, Yahvé, c'est une forme dérivée en hébreu du verbe être. Cela veut dire, Yahvé, c'est celui qui est, celui qui était et celui qui sera. Parce qu'en effet, en hébreu, il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. Et donc, Yahvé, c'est celui qui est et qui sera toujours et qui a toujours été, d'où ce nom de l'Éternel pris dans nos traductions. Alors quand Zacharie dit que le Dieu, son Dieu, celui dans lequel il croit, c'est Yahvé, c'est toute une déclaration de foi. Parce que quand on lit ce récit d'Exode 3, on voit de quelle manière ce Dieu Yahvé se révèle. Et c'est ce Dieu qui, d'abord, vient pour être le libérateur. Il vient pour libérer. Il vient pour libérer son peuple de l'Égypte. Et donc c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui, ce n'est pas, si vous voulez, c'est un Dieu qui vient comme ça, non pas pour imposer quelque chose, mais au contraire pour libérer. Et ça c'est tout à fait essentiel. Et donc Yahvé, ce sera toujours dans la Bible un Dieu de libération, un Dieu de grâce et un Dieu de tendresse. Et d'ailleurs, il est révélé comme ça encore, toujours dans ce chapitre 3 de l'Exode qui est extraordinaire. On nous dit que Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Eh bien, c'est un premier message, parce que le buisson ardent, c'est une lumière. Bien sûr, je glisse pudiquement sur la question de savoir l'origine matérielle de ce miracle qui ne m'intéresse pas, mais un buisson ardent, c'est un buisson qui produit de la lumière et de la flamme. Et donc déjà, nous savons par là que Dieu, il est chaleur et qu'il est lumière. Alors me direz-vous, oui, mais le feu, ça peut aussi détruire? Eh bien non, justement, parce que Moïse remarque tout de suite que ce buisson brûle, mais, dit-il, ne se consume pas. C'est-à-dire que ce n'est qu'un feu positif qui ne fait rien de négatif, qui ne fait aucun mal. Et Dieu, il est comme cela déjà, un Dieu de lumière, un Dieu de chaleur, et en aucun cas un Dieu de destruction ou un Dieu qui consume, un Dieu qui détruit ou qui abîme. Ensuite, ce Dieu du buisson va se révéler et il va dire la chose suivante. Ce qu'il va dire, c'est « J'ai vu la misère de mon peuple ». Eh bien, je ne sais pas si vous avez étudié beaucoup de religions, mais moi, un Dieu qui vient me voir et qui me dit « J'ai vu ta misère », c'est déjà aussi tout un programme. C'est que cela veut dire que on est dans une image d'un Dieu qui compatit, d'un Dieu qui se fait proche. On n'est pas, si vous voulez, dans l'idée d'un Dieu insensible et lointain, d'un Dieu grand, perdu dans le ciel, qui se fiche un petit peu de ce que les hommes souffrent ou meurent. On n'est pas dans un Dieu impassible, mais au contraire, on est dans une image d'un Dieu qui compatit, d'un Dieu qui dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Un Dieu qui comprend et aussi un Dieu qui vient agir pour sauver et pour libérer. Et puis ce n'est pas tout, parce que ce Dieu encore d'Exode 3, qui est vraiment effectivement le Dieu dans lequel je veux croire, non seulement il va libérer, mais il va le faire absolument gratuitement. Il ne va mettre aucune condition à cette libération. Il ne va pas dire « Obéissez, soyez fidèles, faites-moi des sacrifices et peut-être que si vous en faites beaucoup, je vous libérerai ». Il ne dit pas « Priez, priez, faites des réunions de prière, qu'il y ait de nombreuses personnes qui m'invoquent, qui me supplient et alors peut-être viendrai-je vous libérer ». Dieu ne demande rien, c'est sa propre initiative. Et il dit simplement que après coup, eh bien, le peuple pourra adorer, mais après la libération, pas avant. Et donc vous voyez que la pratique religieuse de ce Dieu Yahvé, qui est extraordinaire, n'est pas une pratique en vue d'obtenir quelque chose, mais c'est une pratique de reconnaissance, de louange et d'action de grâce. Et je pense effectivement que nous avons là vraiment dans ce Dieu d'Exode 3 que je redécouvre grâce à Zacharie, l'essence même du Dieu de l'Évangile, de la bonne nouvelle de ce Dieu qui s'approche, de ce Dieu qui se donne, de ce Dieu qui aide gratuitement et de ce Dieu qui n'impose rien, mais qui commence d'abord par nous aimer et par nous libérer. Et puis enfin, je continuerai encore que sur la façon avec laquelle ce Dieu se révèle, c'est qu'il n'agit pas brutalement sur le peuple. Ce n'est pas Dieu qui arrive et qui, d'une façon autoritaire, va faire sortir le peuple comme en agissant comme un deus ex machina dans le monde, mais pour libérer le peuple, il va susciter un homme, un serviteur, qui va aller, lui, libérer le peuple. Donc Moïse va faire cela. Et là encore, nous avons la même chose dans l'Évangile, c'est que Moïse va être ce nouveau Moïse, va être celui qui va venir au nom de Dieu pour essayer de nous annoncer cette libération et de nous inviter à le suivre vers une terre promise, vers une nouvelle manière de vivre. Et je crois que ce Dieu agit de même avec nous. Je ne crois pas que ce soit un Dieu qui agisse avec brutalité dans le cours des choses, mais c'est un Dieu qui s'approche de nous et qui vient vers nous pour nous aider à nous libérer et pour donner la libération aux autres. Et je suis évidemment très sensible à cela, en tant que pasteur et souvent amené à accompagner des familles qui sont confrontées à des difficultés, à des épreuves ou à des deuils. Et il est vrai que souvent, le questionnement de ceux qui sont frappés ainsi, c'est de dire « Mais où est-il Dieu ?» alors que mon enfant est mort, alors que telle circonstance, tel accident a pu avoir lieu. Et le théologien est évidemment toujours un peu embarrassé, encore que moi je ne le suis pas, parce que je ne crois pas que Dieu agisse d'une manière toute puissante et arbitraire dans le monde. Mais néanmoins, c'est compliqué, et je sais que beaucoup de théologiens disent « Eh bien, écoutez, je ne sais pas où il est Dieu. Tout ce que je sais, c'est que ce Dieu n'est pas responsable de la mort de votre enfant ou de cet accident qui vous a frappé. Et ce que je crois peut-être, c'est que ce Dieu, eh bien, aujourd'hui, que fait-il? Je ne sais pas. Certains disent donc, ce Dieu, c'est ce Dieu qui vient et qui s'assied à côté de vous pour pleurer avec vous. Ça aide certains et ça n'aide pas d'autres. Ça aide certains parce que, effectivement, nous avons peut-être besoin de cette image d'un Dieu de tendresse. Et on en a assez de ce Dieu qui se fiche de tout et qui est là-haut dans le ciel et qui gère ses affaires et qui nous laisse, nous, je dirais, nous démêler dans les problèmes du monde et qui nous laisse, nous, dans notre souffrance, dans nos difficultés, en ayant l'impression qu'il ne lève pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Eh bien non, c'est un Dieu qui, justement, compatit. C'est un Dieu qui s'approche, c'est un Dieu qui vient et qui partage avec nous nos joies et nos peines. Mais justement, ça ne suffit pas parce que si Dieu n'est que cela, c'est très bien, c'est une grosse peluche sur laquelle on s'épanche. Mais Dieu est plus que cela, c'est aussi un Dieu qui libère. Mais il ne libère pas de force, il nous libère en venant justement comme à l'intérieur de nous-mêmes pour nous dire, allez, avec toi, on va y arriver. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à Moïse. Il va prendre un des éléments du peuple et Moïse dit, mais moi, comment veux-tu que je libère le peuple? Et Dieu lui dit, ben écoute, on va y arriver, on va y aller ensemble. Et avec moi, tu pourras le faire. Et c'est ce Dieu qui, justement, nous accompagne et qui, petit à petit, arrive à nous relever, à nous remettre debout, à nous remettre en marche. Alors, je vous disais, Dieu nous libère. C'est ça, ce Dieu Yahvé. C'est le Dieu qui libère. Et ensuite, Dieu se présentera encore comme cela, d'ailleurs, avant tous les commandements, avant même le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Il lui dit, « Je suis l'Éternel, donc Yahvé, ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir de l'esclavage. » Donc ce Dieu qui nous libère, mais de quoi est-ce que Dieu nous libère précisément? Eh bien, je ne sais pas, je crois que ça c'est à chacun de le dire. Dieu nous libère peut-être de tout ce qui nous empêche d'être heureux, de tout ce qui nous empêche d'être libres et joyeux. Dieu nous libère de notre sentiment de culpabilité. Dieu nous libère des déterminismes de notre vie. Il nous permet de pouvoir accéder à une vie nouvelle. Il nous libère de l'éternelle répétition du même, nous donnant la possibilité d'être un être neuf. Et puis il nous libère aussi de ce que nous subissons. Il nous libère des événements qui nous accablent. Il nous libère des autres qui nous blessent. Il nous libère de nos dépendances. Il nous libère de tout ce qui nous menace, de tout ce qui menace notre équilibre, notre paix, notre accomplissement, notre bonheur. Tout cela, c'est ce que la Bible, dans l'Ancien Testament, appelle les ennemis. Il nous libère, oui, effectivement, de nos ennemis. C'est comme ça que continue d'ailleurs ce Benedictus. Il nous sauve de la main de nos ennemis. Et ces ennemis, ce ne sont pas des ennemis de chair et de sang, ce ne sont pas des gens qui veulent prendre notre porte-monnaie dans la rue, mais ces ennemis, ce sont des ennemis intérieurs, des tentations, ou alors ce sont des épreuves, des événements, des situations qui veulent nous mettre par terre, nous faire tomber, nous faire perdre confiance. Eh bien, Dieu nous libère de ces ennemis. Il nous sauve de la main de nos ennemis. Eh bien, je crois que ça, c'est tout à fait intéressant. Croire fondamentalement dans un Dieu qui libère. Et trop longtemps, je crois, la prédication chrétienne a enseigné un Dieu qui asservit. La foi n'asservit pas, elle n'est pas là pour nous mettre sous un joug, sous une sorte de domination, sous des exigences, sous des commandements, sous des règlements, sous des choses qui nous imposent des façons d'être, une morale, une pratique, une croyance. Mais c'est un Dieu qui nous libère. Ça, c'est quand même extraordinaire. Un Dieu qui nous libère. Ce n'est pas le Dieu qui nous met dans la soumission, mais un Dieu qui relève, un Dieu qui redresse. Et je crois que là, ça annonce effectivement le Dieu de Jésus-Christ. Le Christ, dans sa vie, a passé son temps à libérer. Et la liberté, c'est un mot que l'on retrouve sans cesse dans sa bouche, dans la bouche de Paul ensuite. Et le Christ a libéré les infirmes de leurs infirmités. Il a libéré l'aveugle de sa cécité. Bon, Jésus savait guérir, c'est comme ça. Et il a même libéré Lazare du tombeau en lui permettant de se relever de tout ce qui le clouait par terre. Et à chaque fois, Jésus libère sans rien demander. Il libère l'aveugle. « Que veux-tu que je voie ?»« Ben, très bien, vois, mon ami. » Il ne lui dit pas « Mais attends, mais est-ce que tu es bien gentil? Est-ce que tu es bien sage? Est-ce que tu as fait des bonnes œuvres? Et puis si je te libère, qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté ?» Jésus voit quelqu'un qui veut être libre, il lui dit « Eh bien, vois, Lazare est enfermé dans ses pièges de la mort et dans les discours mortifères que tiennent ses amis, et il dit à Lazare « Sors !» Ne lui demande rien, 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 il le libère et c'est tout. Comme si la liberté était une valeur essentielle. Eh bien oui, je crois que mon Dieu à moi, c'est ce Yahvé, ce Dieu qui libère, ce Dieu de tendresse, ce Dieu qui s'approche. Ce n'est pas un Dieu qui impose, ce n'est pas un Dieu qui freine, ce n'est pas un Dieu qui interdit, ce n'est pas un Dieu qui soumet, qui bride, qui condamne, qui culpabilise, ce n'est pas un Dieu qui enferme, mais un Dieu qui libère, pour qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse se mettre en marche, qu'on puisse sortir, aller vers son destin, aller vers les autres. Et d'ailleurs, tout le reste du texte va insister dans ce sens. Comme toujours dans la poésie hébraïque, le premier verset dit tout, et le reste, eh bien, développe en quelque sorte. Et donc oui, béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël. Après, il dira, il visite et rachète son peuple. Alors, racheter, ça c'est encore un mot un peu particulier de la langue biblique. Racheter, ça veut dire libérer. Parce qu'autrefois, pour libérer un esclave, il fallait le racheter. Donc, du coup, le verbe racheter veut dire libérer en hébreu, c'est comme ça. Et c'est ce terme latin, ce terme qui en latin a été mis, se dit en latin le rédempteur. Et le rédempteur, c'est celui qui libère. Et c'est ça notre foi. Christ est libérateur. On devrait le redire et le redire encore. Christ est libérateur. Et croire en Christ, c'est croire dans une puissance de libération. Dans une puissance de libération. Et c'est un titre effectivement fondamental. Il libère son peuple et il sauve de la main de ses ennemis. Mais en même temps, d'accord, Dieu libère, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on pourrait croire que Dieu libère, mais sous-entendu qu'il se fiche de nous, c'est-à-dire qu'il dit bah, « écoutez, faites ce que vous voulez, je m'en contrefiche ». Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu qui libère pour rien, ce n'est pas un Dieu anarchiste en quelque sorte. Et la liberté que donne Dieu n'est pas une permissivité de mauvais aloi qui nous conduirait à l'errance. Dieu libère, c'est vrai, mais il est aussi montré comme celui qui accompagne son peuple. Et celui qui nous accompagne, il est l'accompagnant. C'est ça, il visite et libère son peuple. Et j'aime ce mot « visite », sur lequel je voudrais insister aussi. Parce que ce Dieu, d'accord, il libère, mais je vous l'ai déjà un peu dit, ce n'est pas un Dieu lointain qui reste dans son ciel, se moquant de ce que les hommes font de leur liberté, mais c'est un Dieu qui descend et qui vient vers nous. Il y a un passage comme ça dans les psaumes qui dit « Dieu incline les cieux et descend ». Ça aussi, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est toujours ce Dieu Yahvé qui descend à la rencontre de Moïse sur la montagne. Mais c'est essentiel parce que, voyez-vous, Dieu est très haut, il est très grand, il est ultime, il est absolu, il est parfait. Mais en même temps, c'est un Dieu qui descend pour nous accompagner. C'est ce Dieu proche dont j'ai parlé tout à l'heure. Et toujours dans la langue de la Bible, en hébreu, ce « visite »,« visiter », ça se dit « pakad ». Et « pakad », ça veut dire « visiter »,« accompagner »,« guider ». En grec, ça a été traduit par épiscopéine, ce qu'a donné le mot évêque, d'ailleurs. Veiller sur. Et donc, ce n'est pas Dieu, et Dieu vient donc visiter son peuple, effectivement, mais ce n'est pas juste une visite de politesse. Ce n'est pas Dieu qui descend, qui fait sa petite visite, qui se promène, je dirais, comme un président de la République qui se promène avec 25 gardes du corps autour de lui pour qu'on le voie, mais quand même pas de trop près. Ce n'est pas une visite de politesse. C'est il vient et il nous accompagne. Ce Dieu qui comprend, qui compatit, qui partage nos joies et nos peines et qui ne nous laisse pas seuls. Et encore, ce n'est pas tout. Parce que la confession de foi de Zacharie, qui décidément est bien au-delà de ce que je pensais, continue. Il dit « Il lève une puissance de salut pour son peuple ». Et donc là encore, oui, ce Dieu nous libère, ce Dieu nous visite, il nous accompagne, mais ce n'est pas la visite sympathique d'un Dieu impuissant. Et là, c'est important parce que tout à l'heure, je vous disais la gêne que certains avaient. Quand on leur dit « Ce Dieu, il s'assied à côté de vous pour pleurer », certains disent « Mais ça me fait une belle jambe, moi. Ça ne m'aide pas à vivre. » C'est peut-être un peu méchant parce qu'après tout, se savoir aimer et savoir que quelqu'un compatit, c'est déjà une grande force de ne pas être seul. Et combien de fois, moi-même, en tant que pasteur, me suis-je senti incapable, impuissant à aider quelqu'un qui souffre, mais que cette personne me dise simplement « Vous m'avez tellement aidé, j'ai fait quoi ? Vous m'avez écouté. » Eh bien, peut-être que c'est déjà quelque chose. Mais Dieu, il est plus fort que moi, parce que moi, je sais écouter. Lui, il écoute, il s'approche, il compatit, il pleure avec, mais aussi, il lève une puissance de salut. Et ça, je crois que c'est vrai. Il y a en Dieu une puissance de salut, une puissance qui peut nous sauver de la mort, de la peur, de l'absurde et de la culpabilité. Et il y a en lui, même si Dieu n'est pas tout puissant, Dieu est infiniment puissant et il y a en lui une vraie source de vie. Ce mode d'action, je vous l'ai aussi déjà évoqué, il est exprimé dans Ésaïe, dans Exode 3, et aussi il est dit dans le cantique de Zacharie, quand il dit qu'il suscite une puissance de salut à l'intérieur du peuple. C'est ça le cantique, ce que dit Zacharie. Il suscite une puissance de salut à l'intérieur du peuple. Et donc ce n'est pas un Dieu qui agit de l'extérieur, ce n'est pas le Dieu qui impose quelque chose de l'extérieur, mais c'est un Dieu qui suscite le salut à l'intérieur même de l'histoire. Ça a été vrai dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du peuple avec Moïse, qui est suscité de l'intérieur du peuple pour amener ce germe de salut. Et c'est vrai aussi dans notre propre vie. C'est parce que quand nous mettons en nous-mêmes ce Dieu de salut, ce Dieu d'espérance, nous mettons en nous un germe de salut, un germe de libération, une puissance de résurrection, de vie, de joie, de paix qui se trouve en nous. Et c'est ce Dieu dans lequel je crois aussi, qui est révélé là par le Bénédictus. C'est un Dieu qui agit avec synergie, qui agit avec l'homme, en étant en l'homme, et qui arrive ainsi, en l'accompagnant, en étant avec lui, à lui ouvrir les portes. Il va ouvrir les chemins, des chemins de liberté, de vie, de paix et de joie. Et ça, c'est une véritable révolution, vous disais-je. C'est un programme incroyable, une conception de Dieu qui était nouvelle, peut-être, à l'époque, et qui reste aujourd'hui vraiment révolutionnaire, parce que trop de gens ont une image dure de Dieu, et trop de gens ont une image encore pire de la religion, qui n'est pas quelque chose qui libère, mais quelque chose qui culpabilise. Eh bien non, Dieu, et j'espère la religion qui se veut être le porte-parole de Dieu, doit être une parole de libération. Et ce n'est pas tout. Le Bénédictus continue avec quelque chose d'autre, et il nous dit que ce qui parle le mieux de ce Dieu libérateur, c'est le petit enfant, c'est le petit bébé qui vient de naître. Et ça, c'est assez étonnant. En effet, Zacharie dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Longtemps, j'ai pensé que, simplement, il disait que plus tard, Jean-Baptiste, deviendrait quelqu'un de très important pour l'Éternel. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille le lire. Vous savez, dans la Bible, je l'ai déjà un peu dit, c'est très compliqué, les temps du passé, du présent et du futur. Et en fait, on peut tout traduire au présent. Et donc ce n'est pas « béni soit l'Éternel car il a libéré son peuple et il a visité son peuple », c'est « béni soit l'Éternel car il visite son peuple et il nous libère ». Et là encore, pour le petit enfant, ce n'est pas de dire « et toi petit enfant, tu seras prophète du Très-Haut », mais c'est « toi petit enfant, tu es prophète du Très-Haut ». Alors me direz-vous, c'est bizarre, un petit bébé qui est prophète du Très-Haut, parce qu'un bébé, ça ne dit pas grand-chose. Eh bien, si, un bébé, ça dit énormément. Et peut-être que c'est justement le petit bébé qui va dire infiniment plus sur Dieu, sur le Dieu dans lequel nous voulons mettre notre confiance, que n'importe quel discours de grand théologien. Parce que le tout petit enfant, eh bien, ce n'est rien d'autre que de l'amour pur. C'est de la tendresse, c'est de la douceur, c'est une présence qu'on ne quitte pas des yeux et qui change toute une vie. Et donc un petit enfant, c'est la vie elle-même sous sa forme, je dirais, la plus vulnérable. Et pourtant, il y a dans un petit enfant une force vitale incroyable. Et un petit enfant, c'est tout petit, tout faible. Et le petit enfant n'a aucun pouvoir, ni de violence, ni de contrainte, ni de police sur nous. Et pourtant, pour ceux qui l'ont expérimenté, le petit enfant, il obtient tout, tout ce qu'il veut. C'est étonnant. Ce petit enfant qui va bouleverser la vie de ses parents, qui va les faire se lever 3 fois dans la nuit, alors que pour rien au monde, il ne l'aurait fait, pour aucune somme, aucune fortune, aucun avancement professionnel. C'est extraordinaire. Ce petit enfant qui va changer la vie de leurs parents, et leurs parents vont y consacrer la moitié de leurs revenus, changer de voiture, changer d'appartement, sans contrainte, sans violence, sans rien, juste en étant là. Simplement parce qu'on l'aime et qu'on ne peut rien refuser à un petit enfant. Et tout simplement parce que tous ceux qui ont eu en charge des petits-enfants, je crois aussi, deviennent un peu moins mauvais, deviennent un peu moins égoïstes. Tout simplement parce que peut-être que le petit enfant, c'est de l'amour pur et il fait sortir ceux qui s'en occupent de leur propre égoïsme. Et bien justement, le Dieu dans lequel je crois, c'est ça. Ce Dieu dans lequel je crois, ce n'est pas un monarque oriental grand et barbu sur un trône très élevé avec un sabre à la main. C'est un tout petit enfant. C'est un tout petit enfant qui fait vivre, qui donne l'espoir, qui rend heureux, joyeux, travailleur, meilleur, et qui nous fait sortir de l'égoïsme. Et un tout petit enfant, effectivement, qui ne s'impose pas, et qu'on peut très bien déposer un matin de Noël sur, sur la porte d'une église en disant « je n'en veux pas ». Très facile, aucun problème. Mais ce n'est peut-être pas pour rien que les gens déposaient les enfants au pied des portes des églises. Ils comprenaient qu'il y avait sans doute un lien et qu'il y a quelque chose là d'un petit peu divin. Et d'ailleurs, une fois, une jeune mère, très amoureuse de son bébé évidemment, m'a dit « c'est formidable, un bébé bien propre, ça sent le lait et le miel ». Eh bien c'est vrai, chaque fois que vois un tout petit bébé, je me dis « c'est vrai, ça sent le lait et le miel ». Mais le lait et le miel, c'est la terre promise. C'est ce que dit encore dans Exode 3, ce que justement Dieu nous propose. Et donc voilà, ce petit enfant, il est prophète du Très-Haut. Et tout Zacharie, dans son cantique, dans son Benedictus, nous annonce un Dieu extraordinaire qui est justement ce Dieu de libération, ce Dieu qui visite et qui en même temps nous donne une puissance de salut, un salut qui nous permet d'être libérés de tous nos ennemis, qui nous permet de le servir, dit-il, dans la confiance et dans la justice, et d'être avec lui pour la durée de nos jours. Et toi, dit-il, petit enfant, tu es appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face de l'Éternel pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans le pardon du péché. Par l'amour, par la tendresse, la miséricorde de notre Dieu, dans laquelle nous voyons ce soleil levant qui nous visite d'en haut, pour éclairer ceux qui sont dans la ténèbre, pour éclairer ceux qui sont dans l'ombre et dans la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen.